Bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de m'entretenir avec Karen Arsenault, humoriste de la relève. Je ne sais pas si je peux dire humoriste de la relève, on va aller vérifier avec elle. Bonjour Karen, comment vas-tu?
Ça va très bien.
Excellent. Es-tu ce qu'on considère humoriste de la relève? Est-ce que je t'insulte quand je te nomme ainsi?
Tu m'insultes pas du tout. On dit de la relève, oui, parce que il y en a d'autres qui utilisent juste le terme humoriste tout court, ça dépend. Mais c'est certain que je ne suis pas encore rendu à la notoriété, mettons, de Lise Dion.
OK, oui, mais ça c'est correct. Ça s'en vient.
Oui, tranquillement.
Ça sera un autre, un petit peu, dans un avenir rapproché, on va le dire.
Exactement.
Ainsi. Mais je voulais être certain que ce ne soit pas non plus un terme péjoratif. Est-ce qu'il y a certains humoristes qui le voient comme un terme péjoratif?
Non, je pense pas. C'est vraiment plus un côté, tu sais, mettons que tu commenceras à faire de l'humour, t'es-tu un animateur de la relève? C'est un drôle de terme, là. C'est un terme qui n'est pas obligatoire d'être utilisé. Mais il y en a qui sont humoristes de la relève depuis 12 ans.
Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Eux, peut-être que ça les insulte un peu plus.
Peut-être.
Ouais, c'est ça. C'est pas ton cas.
Découverte de l'année après 15 ans, ça doit être
ça.
Un peu difficile.
Vous étiez où les 15 premières années? Je voulais parler un peu de ton cheminement. Tu viens d'où? T'enseignes où? Je t'écoute. Vas-y.
Ben moi, je viens du lac Saint-Jean.
Oui.
Je suis née en 1980. Fait que je suis de la génération... j'ai 41 ans, fait que c'est une génération un petit peu avant l'Internet, avant les cellulaires.
On est en même place, là. J'ai 40 ans, là. Je suis né en 1981, mais moi, par contre, je comprends tout ce qui se passe, contrairement à toi, non, je fais des blagues.
Moi, j'ai vécu dans une grotte, alors...
dans l'obscurantisme.
Exactement, là, j'ai vraiment grandi en campagne, ça fait que c'est un parcours de vie un petit peu plus dans la nature et tout ça.
Oui.
Tu voulais parler un petit peu de mon parcours scolaire aussi?
Que ce soit personnel, scolaire, etc. Moi, je te suis, Karen. Au niveau de la formation, de ta formation, est-ce que tu avais déjà des visées pour devenir humoriste étant plus jeune ou comment ça fonctionnait lorsque tu allais au secondaire, ces choses-là?
Mais vraiment pas. C'était vraiment pas ça mon plan de carrière parce que moi, j'ai grandi dans un mouvement religieux qui est différent un peu des autres. J'ai grandi dans les Témoins de Jéhovah. L'avantage pour moi d'avoir grandi là-dedans, c'est qu'on nous incite beaucoup à la lecture, même les exposés oraux et tout ça. Moi, j'étais habituée à ça tout au long de ma jeunesse. Fait que je voyais que j'avais une facilité à m'exprimer devant les gens parce que je le faisais dans le contexte religieux. Mais aux études, c'était pas la priorité de nous envoyer longtemps aux études. Quand on grandit dans une religion comme ça, les Témoins de Jéhovah ne veulent pas, n'incite pas à aller aux études longtemps. Moi, ça a été plutôt ça, mon parcours. Enfin,
c'est
limité.
Ça. Il vous brime un peu
à ce niveau-là.
À un accès aux études supérieures. C'est
exactement.
Ce que je comprends.
Fait okay. Qu'il faut arrêter au diplôme d'études professionnelles. C'est pas mal l'idéal.
OK, c'est pas mal le maximum. Mais est-ce que lors des réunions avec les Témoins de Jéhovah, tu as parlé que tu as déjà été oratrice, etc.
Mm-hmm.
Est-ce que le français est priorisé? Comment ça fonctionne dans une communauté de la sorte?
C'est certain qu'on vise à bien parler. Parce que justement, on est devant les gens. Les Témoins de Jéhovah n'utilisent aucun sacre.
OK. Aucun sacre.
Aucun sacre. Et c'est même proscrit.
Est-ce que le joual est toléré? Ou, tu sais, quand on parle un langage plus familier, est-ce que c'est correct? Ou, mais vraiment, aucun sacre, même, je vais en dire un, là, qui est plus doux, là, maudit, est-ce que ça passerait?
Non, ça passe pas non plus.
OK. Fait
que c'est vraiment. Parce que, c'est sûr qu'on dit que c'est des mots d'église et les Témoins de Jéhovah ne croient pas en l'Église catholique. Fait que c'est certain que c'est vraiment proscrit, surtout que c'est pas dit dans des beaux contextes, on s'entend.
Fait que... c'est souvent des moments de frustration ou autre, là. Ou dans mon cas, lorsque je me fais mal et que ça sort tout seul.
Fait que d'autres, il fallait trouver des mots plus sympathiques pour ça.
OK,
mais...
vous aviez des expressions, là.
Mettons, c'était conseillé de ne pas en avoir, mais je pense que c'est naturellement difficile de ne pas en avoir du tout.
Oui, c'est très difficile. En même temps, c'est ça, tu sais, vous apprenez à faire des discours, vous avez beaucoup de lectures. Fait que, en partant, tu as eu une bonne base au niveau d'un usage d'un bon français.
Oui, j'ai toujours trouvé que la lecture, parce que j'ai pas beaucoup... dans les dernières années, j'avais moins besoin au niveau de l'écriture.
OK.
Parce que j'étais plus en esthétique et c'était moins nécessaire. Fait que j'écrivais moins, mais j'ai toujours continué à lire. J'aime vraiment ça, la lecture, puis je prends la peine de regarder les formules de phrases, les temps de verbe et tout ça. C'est pas toujours facile quand on en a moins besoin au quotidien, mais je te dirais que je fais même attention quand j'envoie des textos et mes publications Facebook.
Ça, c'est l'idéal.
Ouais.
Moi, personnellement, là, chacun fait à sa guise, là, mais moi, mes publications via les réseaux sociaux, j'essaie tout le temps qu'il n'y ait pas de faute. Idem pour mes messages textes. Je suis du genre à me reprendre puis à mettre un astérix si j'ai fait une faute via la messagerie ou via des messages textes. Là. Mais c'est pas obligatoire pour personne, mais j'aime mieux toujours utiliser un bon français. J'ai toujours été comme ça là, par rapport à ça. Mais au niveau, tu sais, quand même, lorsque tu allais à l'école, comment ça se passait? Est-ce que tu étais isolé d'une certaine manière, étant donné que tu étais avec les témoins de Jéhovah, ou ça se passait bien quand même?
Oui, ça a toujours été un petit peu difficile parce qu'au départ, quand tu te présentes, moi, j'assumais vraiment que j'étais témoin de Jéhovah. J'ai jamais menti là-dessus. Fait que c'est sûr que, en plus, j'étais toute seule à aller en morale dans ma classe.
Oui, c'est ça. Ça avait moins la cote à l'époque.
Oui, c'est exactement
ça. De toute façon, il n'y en a plus là, de cours de catéchèse,
c'est ça? Oui, c'est ça.
Et Colin, on voit que j'ai retenu beaucoup mes cours.
C'est ça, moi. Fait que tout de suite après la maternelle, même en maternelle, je ne pouvais pas faire les bricolages de Noël, l'Halloween. Fait que dès le mois d'octobre.
Toutes les fêtes.
Dès le mois d'octobre, moi, j'ai été étiquetée. Fait que c'est, puis en plus, moi, je viens d'une petite place. Fait que la gang du primaire, ton groupe au primaire, tu l'as tout le long de ton primaire.
Il te suit tout le long de ton cheminement au primaire. Mais en même temps, on n'y allait pas de colibet à ton endroit. Permets-moi l'expression, on taquinait pas, on t'écœurait pas. Là, pour
autant. Oui, il y avait de l'intimidation.
Il y avait de l'intimidation, je savais pas.
En plus, j'ai grandi dans un rang, puis on était habillés pas tout le temps à mode, là, parce que les témoins de Jéhovah, ils mettent pas beaucoup le focus non plus là-dessus. Là.
Ben, eux, ils doivent privilégier un peu la simplicité.
Exactement. En robe pour les réunions, le porte-à-porte. Fait que ma mère faisait de la couture, fait que on avait notre style. Là. On avait notre style vestimentaire à nous autres. Là.
OK. Puis il y avait carrément des. Ben, c'est sûr que les jeunes, des fois, peuvent être méchants, là. On ne se le cachera pas, ça. Ça ne changera pas tant que ça. On espère que les jeunes seront plus conscientisés au fait que les mots peuvent être blessants, ça arrivait souvent?
Tu sais, mettons le terme qui revenait souvent. Moi, j'étais grande et mince, pour dire maigre. Je me faisais agacer beaucoup sur mon physique. Puis la témoin de Jéhovah. On m'appelait la témoin de Jéhovah, puis ça avait c'était une connotation. Mais j'avais quand même des amis qui étaient gentils. C'était par période. Je n'étais pas toujours la risée, mettons.
OK. Est-ce que ça t'a manqué parce qu'au départ, parce qu'à un certain moment, tu as quitté les témoins de Jéhovah, mais est-ce que tu aurais aimé, parce que tu les as quittés à quel âge?
19 ans.
Donc, c'est sûr que là, tes études, tu n'avais pas été au cégep, nécessairement.
Non, j'avais un DEP en technique d'usinage, moi, vu que j'étais bonne en mathématiques aussi. Okay. J'aimais le côté de créer quelque chose grâce à des machines. J'avais appris à coudre. Je trouvais que c'était une autre façon de transformer la matière, si tu veux. Puis je voyais que les possibilités d'emploi au Lac-Saint-Jean et de salaire étaient bonnes aussi dans des domaines comme ça.
Est-ce que ça t'a rendu triste avec du recul de ne pas pouvoir avoir été au cégep et à l'université à cette époque-là?
Personnellement, oui, parce que je sais que c'est pas le cas de tous les jeunes dans cette religion-là, sauf que moi, j'étais bonne à l'école. J'avais vraiment des bonnes notes.
Ça se passait bien.
Ouais, oui,
c'est ça.
Académiquement parlant, j'étais bien à l'école, j'aimais aller à l'école, et mes amis que j'avais qui n'étaient pas témoins de Jéhovah s'en allaient tous au cégep. Et moi, j'aurais vraiment aimé ça poursuivre au cégep.
Ouais, c'est ça. Puis comme tu dis, tu avais une certaine facilité, étant donné que tu faisais beaucoup de lectures, le français, ça allait bien. Là, par la suite, à un moment donné, tu as décidé de devenir humoriste. Pourquoi tu es devenue humoriste, Karen?
Je pense que j'ai pas pu m'épanouir comme j'aurais voulu jeune, justement, quand je passe des entrevues avec d'autres personnes pour la radio. Je m'aperçois que quand tu es jeune, tu es stimulé à faire du parascolaire, à t'inscrire à des activités, mettons l'impro, le théâtre, les sports. Mais tu peux te connaître peut-être un peu plus rapidement pour voir s'il n'y a pas une possibilité pour faire un emploi qui est relié à une passion. Parce que quand c'est une passion, c'est vraiment plus un emploi, ça devient un plaisir.
Non, c'est ça, c'est que moi, ça, c'est que je l'ai vécu pleinement parce que au départ, moi, j'ai toujours souhaité, au début, je voulais aller plus journaliste sportif à l'écrit.
OK.
Mais, tu sais, après certains détours, je vais le dire comme ça, parce que j'ai étudié au cégep, à l'université. J'ai trouvé qu'à l'université, on était peut-être un peu beaucoup, puis ça devenait un peu disparate. Mais après ça, j'ai entendu qu'on pouvait faire de la radio et parler de sport quand même avec un français adéquat. Puis c'est là que je me suis inscrit. Puis c'est là, depuis ce jour, j'ai jamais regardé en arrière. Puis c'est une vraie passion parce que j'ai le plaisir de divertir les gens, de leur parler, d'avoir une rétroaction de ces personnes-là. T'sais, moi, le matin, il n'y a pas une fois que je me lève en allant de reculons. Ouais, à ça, mon travail. C'est un cadeau que je chéris à tous les jours.
Je pense qu'il n'est jamais trop tard, parce que dans mon cas, j'ai travaillé un petit peu quelques années comme machiniste.
C'est un très bon point, ça.
Oui, puis après. Mais j'ai aimé ça, j'ai appris plein d'affaires. Je connais plein de mécaniques automobiles et tout ça. Je suis capable de réparer une motoneige.
Mais t'as raison qu'il n'est jamais trop tard.
Non, non,
parce que tu sais, j'ai commencé, ça fait quand même 13 ans là, que j'en fais, mais j'ai commencé à 27-28 ans. Il y a des gens qui auraient dit oh, non, je peux pas me lancer dans. Des fois, il ne faut pas avoir peur un peu de se lancer dans le vide. Si la situation le permet, bien sûr.
Ben oui, puis quand j'ai eu mes enfants, je me suis partie en esthétique.
OK.
C'était un gros changement de travail, mais c'était tellement parfait pour mon rôle de maman. Mais il me manquait quelque chose. Fait que c'est quand j'ai travaillé dans les événements le soir que j'ai vu mon petit côté animation qui s'est développé. J'ai eu beaucoup de lassitude du côté de mes employeurs pour faire de l'animation de planche et agent promo, des choses comme ça.
Quand tu dis tes employeurs, c'était au niveau de la cosmétique, tu faisais des ateliers pour des produits?
Je l'ai fait, oui, en pharmacie et aussi pour une compagnie d'événements.
OK.
Et je travaille encore pour eux, justement. On attend que la COVID passe, mais oui. Ouais, on a recommencé les événements aussi. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler au Casino de Charlevoix, des places comme ça. Et ça m'a permis de développer mon sens comique public, pas juste avec mes amis. Mais c'était encore beaucoup la répartie. Fait que c'est pas encore là que j'ai développé l'idée d'être humoriste parce que je voyais le travail, parce qu'on parle de français et tout ça, c'est beaucoup de textes écrits.
Oui.
Il y en a qui travaillent différemment, mais c'est vraiment, t'écris tes textes, faut que tes phrases, il y ait un punch, pas au bout de 20 phrases, sinon tu n'as plus un texte d'humour. Fait que c'est un gros, gros travail d'écriture, être humoriste.
Mais justement, comment ça se déroule, toi, lorsque tu écris? Est-ce que tu écris en groupe? Est-ce que tu vas écrire plus? Est-ce que tu as certains... Tu vas y aller plus au niveau de raconter ou c'est des référents à l'actualité? Comment tu fonctionnes au niveau de ton écriture?
Mais comme là, je suis dans une période que je travaille l'anecdote, parce qu'habituellement, je fais plus du stand-up.
Oui.
En français, je sais pas le terme.
Ouais, je crois que c'est un terme qui est utilisé, le stand-up, là, quand même.
Mais
je crois que c'est accepté.
Oui.
Sinon, on l'utilise présentement.
C'est ce que j'ai eu un peu comme choc, moi, quand je suis arrivé en humour. Beaucoup de termes anglophones.
Oui.
Avoir une clap, open mic et tout ça.
T'as raison qu'on utilise beaucoup ces termes anglophones-là. Est-ce que tu as compris à force de travailler dans le milieu?
Au début, je voulais pas. Je voulais vraiment. Moi, j'aime ça utiliser le français. Là.
Oui.
Je me sens trop d'anglicisme.
Une clap, dans le fond, c'est quoi qui est plus difficile? Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile à dire? Est-ce qu'on a reçu des applaudissements?
Mais pour vrai, au début, j'étais comme, mais voyons donc, il n'y a pas moyen de parler. Français en humour,
ouais.
Stand-up, comédie club. Comédie club, je pense que c'est comédie avec un Y, là, t'es en anglais. En tout cas, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de termes anglophones. Mais je n'ai pas eu le choix de les apprivoiser.
Oui.
Mais
t'as jamais su pourquoi on les utilisait aussi abondamment?
Non, je sais pas pourquoi.
Parce que, dans le fond, c'est carrément volé un peu à l'humour anglophone. Puis on a juste décidé de jamais vraiment les traduire.
Qu'open mic, c'est micro ouvert.
Ouais, d'après moi, c'est ça. Ça serait micro ouvert, micro libre, peut-être.
Ouais, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça en français. Mais moi, ma méthode d'écriture, c'est souvent j'ai une idée de l'histoire que je veux raconter. Alors, ouais, je commence par l'histoire. Je l'écris vraiment... ce qu'on m'a conseillé, c'est de l'écrire comme je parle. C'est sûr que c'est pas toujours facile parce qu'au début, j'étais comme « Oh, c'est écrit colon un peu » parce que...
C'est quoi, tu considères que ton niveau de langage en raison de tes origines ou j'essaie de comprendre pourquoi tu déprécies...
Je viens de dire « ben », ouais. Mais c'est sûr que si j'ai un français trop impeccable sur scène, ça ne fitera pas tout à fait avec ma personnalité parce que je suis une fille, oui, de région. Je suis colorée.
Ben justement, tu sais, il y a des expressions propres à différentes régions. C'est tel que tel.
Je veux être accessible
propres.
Aussi. Ouais, c'est important d'être accessible. Je travaille beaucoup dans les bars en plus. Mais comme deux semaines, j'ai animé un gala, une ouverture de gala. Et j'ai travaillé avec un metteur en scène. Et il m'a dit, on va lâcher le côté bar un peu, vu que c'est un gala. T'es avec du monde aussi, pas la même tranche d'âge. Fait que je pense que j'ai tendance à m'adapter à mon public.
À être caméléon.
Oui, ouais, parce que j'anime aussi des galas corporatifs pour des entreprises.
Okay.
Et là, c'est un français impeccable.
OK, OK.
Ouais.
C'est quoi sinon? Tu vas avoir une moins bonne réception de la part de ton public si jamais...
Ça va être moins naturel.
OK.
Vraiment. Ben là, tu le vois parce qu'on fait des chroniques aussi ensemble. J'ai pas peur de me laisser aller tout ça, mais je veux pas avoir l'étiquette. Il y a des mots que je prononce peut-être moins bien. T'sais, comme des fois, j'ai tendance à dire « le » au lieu de « l'heure ». On avait parlé un peu de ça. Fait que j'essaie quand même de travailler ça même sur scène pour que ça, parce que justement, c'est trop ça, une phrase qui devient un bloc. Fait que t'as mal séparé tes mots parce que tu prononces pas, tu manges tes mots. Je pense que là, on va perdre même des gags. À la limite, c'est trop mal prononcé. Là.
OK, c'est peut-être un peu pour ça aussi. Dans le fond, pour toi, c'est important aussi d'avoir un certain bon français, c'est que tu veux que les gens comprennent bien le gag puis qu'il y ait l'impact recherché, c'est
ouais,
ça?
Oui, mais je garde quand même ma touche très Lac-Saint-Jean. Mon accent est présent. J'ai des expressions du Lac-Saint-Jean dans mon humour, dans ma façon d'être au quotidien. Et ça, je m'en cache pas. Mais au début, j'avais tendance à écrire trop propre quand j'écrivais mon humour. Ben, j'ai dit, hey, je veux pas avoir l'air habitant. Mais là, ça sonnait pas bien.
C'est ça, parce que là, tu sonnais faux.
Ouais, c'est ça.
Fait que là, c'est ça. Ça peut être un petit piège qu'on peut facilement tomber. Mais en même temps, justement, les gens, en général, la réception que tu reçois, ça se passe bien au niveau,
ouais.
Non,
ouais.
Au niveau de tes différents numéros, ces choses-là. Est-ce qu'il y a un public particulier que tu rejoins plus, une tranche d'âge que tu rejoins plus?
Bien, moi, je suis confrontée souvent, je sais pas si on veut dire ça comme ça, mais je suis souvent devant un public de 20 à 30 ans, majoritairement masculin. Je vis beaucoup ça présentement, mais c'est sûr que si tu me places dans un endroit où ce que le public a 30 ans et plus, des couples et tout ça, ben c'est encore plus réceptif.
Okay.
Pour moi, là, pour mon style à moi, mon vécu aussi à moi. Fait que c'est certain que j'écris. Au début, j'avais tendance à écrire mes numéros en tenant compte vraiment que j'étais avec des jeunes. Et après ça, je vais être. Non, c'est des sujets qui interpellent tout le monde. Puis à la limite, il y a des gags, même dans mon sujet.
Ouais, mais ça devait être un peu plus complexe si tu t'écrivais en fonction de quel genre de public t'allais avoir devant toi à chaque soir, parce que disons que finalement c'est pas le public que tu t'attendais, tu peux faire un saut, non?
Habituellement ça va un petit peu avec la place où on joue.
OK.
Et c'est
vraiment la région, tu parles, l'endroit ou la salle en tant que telle?
Ben, mettons, je vais jouer à Rimouski. Rimouski, un samedi soir, ben, ça va être plus des couples qui sont allés souper et qui viennent après le show.
C'est bon.
Je le sais un peu. En plus, à Rimouski.
Ils se payent une soirée.
Ouais, fait que j'ai. Mais c'est sûr de prendre chance, là, tu le sais jamais. Ça m'est arrivé des fois d'avoir un numéro qui était plus personnel, qui. Justement, je parlais des témoins de Joe de ça, mais j'ai passé après deux humoristes qui ont fait des jokes.
Disons plus salace, on va
exact.
Dire comme ça.
Fait que là, c'est un peu difficile pour moi, mais en même temps, il faut que je les teste, mes blagues.
Oui, c'est ça. Mais c'est parce que, dans le fond, quand tu passes après un humour plus corrosif, là, c'est quoi? C'est que ça va. J'essaie de comprendre, ça va dévaluer tes blagues à toi ou c'est juste qu'ils ont moins d'impact? Ou...
Ben, ça dépend.
Ça dépend aussi si l'humoriste, il y a beau avoir un humour corrosif, si ce n'est pas drôle puis c'est un français qu'on comprend. Pas du tout, ça donne
trop
rien.
Trop facile.
Ouais, c'est ça.
Je te dirais que c'est varié. Pas une soirée de pareil. Habituellement, je réussis assez bien parce que je travaille fort, je me prépare bien, puis j'ai des bons gags. Et le monde ne savent pas trop à quoi s'attendre avec moi. Ils voient la madame arriver, je suis tout le temps bien habillée, j'ai pas de tatouage.
La madame, on est rendu à cet âge-là, monsieur.
Ben oui, je suis une madame.
Faut s'assumer.
Une madame très sympathique, mais une madame quand même. Et fait que moi, j'ai l'effet de surprise qui est gagnant pour moi.
Okay.
Mais c'est sûr que des fois, je fais comme, oh, j'aurais aimé mieux faire tel numéro, mais j'ai pas encore assez d'expérience pour switcher rapidement à un autre.
OK. Est-ce que, comment tu trouves la scène actuelle de l'humour au Québec, autant chez les vétérans que chez les plus jeunes. Parce que les plus jeunes, il y en a beaucoup qui vont parler justement à leur public, à eux, mais justement le français va être souvent escamoté. Est-ce que ça te dérange ou toi, ça t'affecte pas du tout?
Moi, je suis sûre que je vais écouter la procédure de chacun. Il y en a qui a vraiment trop de sacs. Un sac bien placé, ça peut avoir une très bonne incidence. Ça peut avoir un impact.
Ça peut rajouter de l'intensité, ouais, c'est
ça. Mais ça remplace pas une blague.
C'est ça. Faut pas que ça soit un sac pour un sac.
Là. Non, c'est ça. Fait que ça, je vois ça dans certains procédés d'écriture. Mais il y en a qui improvisent beaucoup. Fait que peut-être c'est pour ça qu'il y a plus de sacs pour combler. Puis c'est très masculin aussi de mettre autant de sacs, je pense. C'est
bon,
très québécois.
Ça y est, c'est notre faute, les gars. Vous avez entendu. Est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup, tu sais, parce qu'on avait parlé qu'il y avait beaucoup de termes anglais qui étaient utilisés, mais dans les numéros en tant que tels, est-ce que tu trouves qu'on utilise trop d'anglicisme ou c'est quand même.
J'ai pas remarqué tant que
adéquat.
Ça. Je peux pas dire que ça m'a frappé d'entendre tant d'anglicisme. On est tous du monde d'origine. Différente, quand je dis d'origine, de régions différentes. Là,
oui.
À Québec, on est plein de monde de partout, là, la Beauce, Trois-Rivières, tout ça. Puis le monde de Montréal vient de jouer chez nous aussi. Fait que je te dirais que c'est assez varié, les côté langage. Mais non, j'entends pas tant d'anglicisme. Je pense que je vais porter attention un peu plus, mais je vais super arrêter à ça.
Est-ce que tu as performé au niveau anglophone pour des publics anglophones, pas encore?
Non, on m'en a parlé. Puis là, je trouve ça drôle parce que je suis pas bilingue. Je comprends l'anglais.
Mais est-ce que tu pourrais, je sais pas, moi, faire ton... quand même ton numéro, disons, en français pour un... parce que des fois, il peut y avoir un public francophone qui va être, je sais pas moi, en Ontario, en Nouvelle-Écosse ou quelque chose comme ça.
Qui, ça, j'aimerais
qui
ça.
Qui est friand d'humour dans une langue, dans un français adéquat, mais qui ne l'ont pas, bien sûr.
Parce qu'on m'a proposé que je veux relever comme défi, il y a une communauté française de France à Montréal. Et mon metteur en scène travaille avec Jérémy Demé, fait qu'il y a contact avec cette communauté-là. Il m'a demandé si ça peut m'intéresser d'adapter mon texte pour le présenter devant ce public-là.
OK, puis si tu adaptes ton texte, je comprends que tu vas changer des mots parce que tu crois que ces mots-là, ils ne les comprendront pas, c'est bien ça, ou c'est plus au niveau des références? Ou un mélange des deux, là, ça doit être
un mélange des deux, parce que c'est certain que si c'est du monde qui se fait pas des années qui sont au Québec, puis que je leur parle de mon rang au lac Saint-Jean, si je nomme le nom du village, même ici au Québec, ils savent pas
ça. Non, c'est ça.
Il faut quand même faire attention aux référents.
Tu vas dire mon rang, puis je suis même pas sûr qu'ils comprennent totalement. Là, ce qu'ils...
Mais je vais être curieuse de le vivre. On en reparlera peut-être éventuellement, voir à quel point il faudrait que j'adapte mon français. Parce que je sais que les Européens utilisent énormément d'anglophones. D'anglicisme,
oui. Oui, c'est ça.
Non, j'utilise même... des anglophones.
des méchantes langues, je te dirais qu'effectivement, il y a plusieurs humoristes francophones qui utilisent des humoristes anglophones pour traduire leurs textes, pour en faire les leurs. Là, mais
c'est un autre sujet.
C'est un autre sujet, puis on nommera pas de nom nécessairement. Est-ce que tu te vois faire ça encore longtemps, Karen?
De l'humour?
Oui.
J'aimerais ça faire ça jusqu'à la fin de mes jours.
Jusqu'à la fin de mes jours. Disons, un rêve, là, est-ce que tu aimerais justement percer en Europe? Aimerais-tu faire un
voyage?
Pour
vrai, ça va arriver.
Belgique?
Oui. Okay. C'est sûr que ça va arriver. Moi, je suis travailleuse autonome depuis 18 ans. J'étais habituée d'aller chercher mes contrats moi-même. J'ai un gérant présentement. On travaille en partenariat ensemble. Mais moi, j'ai pas peur de ça. Je me crée des contacts facilement. J'ai commencé à avoir des contacts en humour en Europe. J'aimerais ça me booker des petites places.
Des petites salles. On commence par des petites salles.
Ben oui, accompagné de quelqu'un qui est là-bas.
Tenter le pouls un peu au niveau du public français.
Mes objectifs, c'est, on commence petit, une étape à la fois. Là, je suis au Québec, je veux me développer. Je veux développer le plus possible mon personnage de scène et tout ça, prendre l'expérience, avoir beaucoup de numéros. Puis éventuellement, mais c'est sûr qu'aussitôt qu'il y a une porte qui s'ouvre, en toute humilité, je vais aller l'essayer, c'est certain.
En tout cas, une chose qui est certaine, c'est qu'on te souhaite que le meilleur dans tes projets futurs. Puis je te remercie beaucoup pour l'entretien, Karen.
Merci.
Au revoir.